France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings.
Yes, sir.
Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because I'll be you girls or bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, hey, moi j'aime bien les vieux.
Tutsuana.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Ce soir, Gainsbourg Cinéma, première partie. Bonsoir, vous connaissez forcément Gainsbourg, le chanteur, l'auteur, le compositeur, mais saviez-vous que le même Gainsbourg fut aussi, au long des années, et un musicien de film à part entière qui, de l'eau à la bouche, à tenue de soirée, a composé une cinquantaine de musiques de films. La sortie récente d'un coffret intitulé « Le cinéma de Serge Gainsbourg » permet de prendre la mesure de ce travail réalisé avec ses arrangeurs successifs, co-compositeurs de pour l'occasion, Alain Goraguer, Michel Colombier, Jean-Claude Vanier ou Jean-Pierre Sabar. Pour fêter cet événement, Cinéma Song consacrera donc deux émissions à l'immortel auteur de L'eau à la bouche ou du Requiem pour un con, deux chansons écrites pour le cinéma. Ce soir, pour débuter, nous recevrons Stéphane Lerouge, éditeur du coffret Le cinéma de Serge Gainsbourg, Jean-Claude Vanier, grand complice du maître période La Horse, Mélodie Nelson, et Pierre Koralnik, réalisateur de la comédie musicale Anna et du film Cannabis, dont Gainsbourg fut évidemment l'acteur et le compositeur. Et pour clore cette émission, c'est la chronique de Charles Pierre Valière, Essentiel BO, qui nous accompagnera. Ce soir, il nous parlera de la musique du film Yéna, signé Matt Johnson. Mais en attendant, mon actualité, c'est d'abord ceci.
Thank you.
Vous avez peut-être reconnu cette musique qui est assez légendaire pour les amateurs de musique de film. C'est le thème de Once Upon a Time in America, c'est-à-dire Il était une fois en Amérique, un film de Sergio Leone qui est encore dans toutes les mémoires, dont la musique est évidemment signée Ennio Morricone. C'était le dernier film de Sergio Leone. Et pourquoi en 1983? Et pourquoi on parle de ce soir dans Cinéma Song de ce film? Bah parce qu'il vient de ressortir hier dans une version avec 22 minutes inédites. Alors le film faisait 3h50 jusqu'ici, un petit peu plus de 3h50, maintenant il en fait à peu près 4h12 ou 4h10, je ne pourrais pas vous dire exactement. Ces 22 minutes inédites avaient été retrouvées il y a déjà plusieurs années, et puis le temps que voilà la copie finisse par exister avec un étalonnage digne de ce nom, voilà, le film ressort avec dans de très beaux atours, même si ces scènes inédites vous les reconnaîtrez facilement parce qu'elles ne sont pas tout à fait dans les mêmes teintes, dans les mêmes couleurs, dans les mêmes lumières que les séquences qu'on connaissait déjà. Alors c'est toujours le même chef-d'œuvre proustien, on pourrait dire, c'est-à-dire une sorte de réflexion sur le temps, réflexion sur le cinéma, et en même temps un film qui procure un plaisir immense avec Robert De Niro et James Woods dans les rôles principaux, et Elizabeth McGovern dans le rôle de Deborah, personnage féminin très important dans ce film, d'homme, mais également de femme. Donc voilà, et la musique de Ennio Morricone est toujours splendide, elle exprime à merveille, on pourrait dire, la mélancolie majestueuse de ce film, qui est vraiment un des derniers grands films américains, même si c'est un film italien, italo-américain. Mais bon, en tout cas, je l'avais vu à sa sortie, je ne l'avais jamais revu depuis, et j'avoue que l'expérience de la revision de ce film m'a procuré un immense plaisir. Je pense que ce sera le cas pour vous également. Il fait partie de ces films comme Apocalypse Now ou Heaven's Gate à la fin des années 70, début des années 80, qui représentent une sorte de splendeur du cinéma de cette époque. Donc ça vaut vraiment le coup de se replonger dans le bain léonien de Il était une fois en Amérique. Je disais que finalement la musique joue peut-être un rôle moins important que dans des films comme Le Bon, la Brute et le Truand ou Il était une fois dans l'Ouest, mais en même temps les thèmes de Morricone sont tellement splendides qu'on ne s'en lasse pas tout au long de ce film. Voilà, donc ça c'était l'actualité majestueuse, et puis une actualité disons moins ample, c'est la sortie d'un film de Alain Chocard, un ancien assistant de Bertrand Tavernier, qui s'appelle Lady Grey, qui a la particularité, c'est un film français avec Jérémy Régnier et Claude Rich, et qui a la particularité de se passer en Afrique du Sud. C'est une histoire qui se passe 10 ans après la fin de l'apartheid, et qui à travers la présence d'une communauté blanche, enfin des Français en tout cas, une délégation française plus exactement, va faire ressurgir quelques histoires un peu enfouies qui bien évidemment ont un lien avec l'apartheid. Et dans ce film assez classique de facture mais plutôt réussi, il y a surtout une très belle musique du guitariste suédois Peter Van Paul, qu'on connaît davantage pour ses collaborations avec Bertrand Burgala ou avec plein d'autres musiciens d'ailleurs et pour ses disques, les disques qu'il a publiés sous son nom. Mais Peter Van Paul est aussi capable de faire de très belles choses en matière de musique de film. En tout cas, c'est le cas pour Lady Grey. Je vous propose d'écouter un extrait, alors qui n'est pas un extrait instrumental, même si globalement le film est bien évidemment, enfin la musique est bien évidemment instrumentale. Mais il y a une chanson dans ce film, et cette chanson, elle est signée bien sûr Peter Van Paul, mais elle est interprétée par Marie Modiano, qui est la fille bien sûr de Patrick Modiano, mais qui est également une chanteuse à part entière, qui a publié déjà au moins 2 albums. Je vous propose d'écouter cette chanson qui s'appelle Side by Side. Thank you. Belle chanson pour signée pour la musique par Peter Von Paul et pour l'interprétation et les paroles par Marie Modiano, chanteuse à part entière pour donc ce Side by Side, extrait de la bande originale de Lady Grey, le film d'Alain Chocard, donc qui est sorti hier avec, donc je le disais, Peter Sarsgaard, Jérémy Régnier, Claude Rich, donc film qui se dont l'action se déroule en Afrique du Sud 10 ans après l'apartheid, mais la musique est peut-être ce qui est meilleur finalement dans le film. On a pu entendre la finesse orchestrale des timbres orchestrés justement par Peter Von Paul. Cette bande originale est disponible en téléchargement légal, bien sûr, et sortie par le label Différente.
Premier contact avec le cinéma, oui, c'est la musique de film. C'était l'eau à la bouche, c'était pas mal de films.
C'est agréable, la musique de film.
Bon, au début, c'est impressionnant d'avoir un nom générique. C'est tout. Comme il y a 10 ou 12 ans, la première fois que j'ai eu mon nom dans le journal, j'ai pris une gomme, j'ai essayé d'effacer, ça s'en allait pas, j'étais content. Bon, et puis après, alors, son nom au générique, ça me paraissait quelque chose de somptueux. Et maintenant, je suis assez fatigué de ça et je choisirai mes films avec plus de discernement.
Est-ce qu'au point de vue métier, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose, ça vous a apporté quelque chose?
Si le film est bon, ça m'apporte quelque chose. Si, en plus des droits d'auteur. Et si le film est mauvais, ça ne m'apporte que des droits d'auteur et pas mal de déceptions.
Mais techniquement, c'est une technique particulière quand même.
Oui, c'est assez... C'est un peu la même chose, toujours. C'est un peu le pianiste des années 30, devant le cinéma muet. Il y a un film que j'ai fait, dont j'étais content. C'était le dernier film de Raoul Lévy, et le dernier film également de Montgomery Clift. Il est passé assez inaperçu, mais c'était pas un mauvais film. Ça s'appelait L'Espion.
Et alors l'acteur de cinéma?
Ah ben, ça c'est autre chose. Ça commence à démarrer maintenant, je crois. Sérieusement. Parce que j'ai fait beaucoup de bêtises.
Oui, c'est vrai, vous êtes apparu dans des films qui c'était pas indispensable.
Non. Mais j'ai vu, comme je vous l'ai dit, j'ai vu le monde entier grâce au cinéma, donc je pourrais pas.
Vous avez décidé de faire des films uniquement pour voyager?
Aussi pour essayer de réussir quand même, parce que j'avais une ambition, l'ambition d'imposer ma sale gueule. Alors j'ai toujours été, je le suis toujours, très complexé sur mon physique.
Et pourtant, il paye.
Bah, pour l'instant, oui, il paye. C'est lui qui m'a fait réussir, c'est vrai. Bon, succès féminin, succès au cinéma, c'est pas ça qui m'empêchera d'être... d'avoir des rapports difficiles avec moi-même. J'ai trop le sens de l'esthétique pour ne pas, pour admettre une gueule pareille.
Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte, je t'en prie, ne sois pas farouche. Me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
Serge Gainsbourg, bien sûr, vous avez reconnu L'eau à la bouche, qui est un standard, on pourrait dire, de Gainsbourg, mais qui était une chanson écrite pour le cinéma, pour le film de Jacques Daniel Valcroze, L'eau à la bouche, le premier film pour lequel Gainsbourg a travaillé au cinéma, ce qu'il expliquait d'ailleurs juste avant dans une archive des années 60, où Gainsbourg parle de son rapport un peu dilettante et un peu distant, on va dire, avec la musique de film et éventuellement le métier d'acteur, puisque on ne le sait peut-être pas assez, mais Gainsbourg, à la fois, donc, a réalisé une cinquantaine de musiques de films, a été acteur dans pas mal de films également, et puis il en a réalisé 4, mais ça on en parlera plutôt la semaine prochaine, puisque j'ai décidé pour la sortie du coffret le cinéma de Serge Gainsbourg de consacrer donc 2 émissions à ce personnage bien connu, mais pas tellement connu pour voilà pour cette activité de compositeur de cinéma. En tout cas, on va en avoir donc pour notre argent, enfin j'espère, en tout cas vous en aurez pour votre argent ou pour vos oreilles. Pour ces 2 semaines, ce soir donc on va rencontrer 3 personnages qui n'ont pas tous connu Gainsbourg, mais certains l'ont bien connu. Stéphane Le Rouge d'abord, qui a éditeur dont du coffret le cinéma Serge Gainsbourg et qu'on va entendre très vite dans cette émission. On entendra également ensuite Jean-Claude Vanier, arrangeur, co-compositeur de Gainsbourg dans une période clé à la fin des années 60, et puis Pierre Koralnik, l'auteur de la comédie musicale Anna, mais nous y reviendrons tout au long de cette émission. Ben, en route donc pour une première salve avec Stéphane Le Rouge, mais d'abord une musique importante dans l'œuvre de Gainsbourg, Jean-Claude Vanier, La Horse.
Thank you. Et moi, j'ai un souvenir d'enfance très très fort. C'était, je crois, c'était assez curieux, c'était le jour de la disparition de Pascal Jardin. Et c'était un été 81 ou 82, donc j'avais 11 ou 12 ans. Vous imaginez, Jardin est auteur et scénariste, romancier. Il meurt et à l'époque, ce qui était encore Affaire 3, lui consacre une soirée hommage et passe un film en prime time, donc 20h35. Et je me souviens, je ne sais pas ce que j'étais peut-être chez ma grand-mère, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu La Horse. Et je me souviens très très bien de ce que j'ai ressenti devant, du sentiment intérieur sur les images de ce générique. Gabin en Jeep qui patrouille comme ça ses terres, propriétaire normand, fermier, et là-dessus il y avait le son Gainsbourg, période Vanier, c'est peut-être d'ailleurs l'un des Everest de leur collaboration, et j'ai eu quelque chose d'étrange, c'est-à-dire me dire tiens, le type qui a écrit ça est aussi ce personnage que je vois dans les émissions des Carpentiers et qui chante la Micaouette. Et je me suis rendu compte que c'était pas que un interprète et un personnage qui s'auto-mettait en scène avec une forme presque de théâtralité, mais que c'était aussi un compositeur qui pouvait écrire des œuvres orchestrales, instrumentales et en plus aussi insolites que La Horse. Alors, j'étais trop jeune pour l'analyser, bien sûr, mais que ce mécano timbral orchestral avec du clavecin, du cymbalum, du banjo sur une rythmique pop, sur le personnage de Gabin de la dernière période, etc., il y a une sorte de décalage, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un souvenir. Et à partir de là, je me suis vraiment passionné pour ce que Gainsbourg avait fait, pour ce rail un peu particulier de son parcours et un peu assez souterrain finalement. C'est Gainsbourg qui finalement ne renonce pas à lui-même, mais adapte sans lui-même à l'univers d'un autre créateur qui est le metteur en scène. Donc, c'est-à-dire Gainsbourg, compositeur pour le cinéma.
Que je striptease, que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour s'en vont, une à une et mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillerait bien monotone. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui, est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu sois dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères de ma bouche à ma jarretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme à genoux, et je reste en tout point pareil, là dans le plus simple appareil.
Moi, malheureusement, comme vous, j'ai pas eu la chance de rencontrer Gainsbourg. J'ai tenté, j'ai essayé, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai le témoignage qui est comme un vrai point de départ d'Alain Goraguer, qui a été le premier complice de
Stéphane Leroux,
arrangeur de ses premiers albums et co-compositeur de ses premières bandes originales. Et Goraguer raconte toujours que quand Doniol Valcroz, qui avait adoré donc du chant à la une, pense à Gainsbourg pour L'eau à la bouche, Gainsbourg d'abord est le premier surpris, il s'imaginait pas écrire pour le cinéma. Et il a vu cette proposition comme une façon supplémentaire de s'imposer. Il s'est dit, c'était pas un rêve, une espèce d'objectif. Au contraire, c'est voilà, les aiguillages de la vie ont fait que. Donc il se dit, oui, pourquoi pas, peut-être que je vais pouvoir, ça va me permettre enfin de vendre du disque. Et Par ailleurs, il voyait juste, puisque c'est ce qui est arrivé, puisque L'eau à la bouche, sa première chanson à succès, elle naît du cinéma, puisqu'il l'écrit pour le film de Donyol. Et qu'ensuite, ça va déclencher quelque part des films. Est-ce que ce sont vraiment les films que Gainsbourg rêvait de mettre en musique? J'en suis pas complètement convaincu. C'est vrai que L'eau à la bouche pourrait laisser penser qu'il va rencontrer d'autres, un peu les enfants de Donyol, c'est-à-dire Chabrol ou Truffaut ou Godard ou Louis Malle. Ça ne va jamais arriver. Et à la place, il aura Jacques Poitrineau, il aura Michel Boiron. Quel est l'état intérieur de Gainsbourg quand on lui demande de mettre en musique « Comment trouvez-vous ma sœur ?» Je sais pas exactement, mais... Je pense surtout que vraiment, je l'ai écrit d'ailleurs dans le texte du coffret, c'est que je crois que j'ai l'impression en tout cas que Gainsbourg voit la musique de film comme un laboratoire à idées. Il essaye des choses, soit d'un point de vue thématique, soit d'un point de vue orchestral. Il y a parfois même des fils rouges, comme ça, des constantes, des thèmes qui vont circuler, voyager parfois sur 3-4 films avant de trouver un point d'arrivée dans un album pour une interprète qui peut être Catherine Deneuve ou qui peut être Charlotte Gainsbourg. Et dans l'autre sens, il y a aussi des thèmes de chansons qu'il a recyclés dans ses musiques de films. Donc il y a un va-et-vient, et puis il y a aussi des territoires qui sont ceux évidemment délimités par les apports respectifs de ses co-compositeurs.
Parlons peut-être un peu de ce nouveau coffret qui donc reprend pour une part ce qui existait déjà, mais qui ajoute des nouvelles choses. C'est pas une intégrale au sens où il y aurait tout. Enfin, c'est une anthologie très, on va dire, très substantielle, très fournie. Alors, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui est excitant finalement dans le fait de refaire ce coffret, enfin de faire un nouveau coffret aujourd'hui?
D'abord, la base, c'est que c'est malheureusement un constat du temps qui passe, c'est que le premier coffret qui était sur un format allongé, une invention française comme son nom l'indique, c'est-à-dire le long box, aujourd'hui n'existe plus. Il n'y a plus de place dans les bacs, c'est un format malheureusement qui est subclaquant. Donc il fallait remplacer l'antique coffret donc qu'on avait réalisé en 2001 par un nouveau coffret. Et dans l'intervalle, moi j'avais mis la main sur pas mal de bandes originales complètes. et dont les plus beaux joyaux étaient peut-être Le Pacha et Manon 70. Et Manon, c'est comme quelque chose d'important parce qu'on ne connaissait que les deux titres qui étaient sur le 45 tours. Et c'était, de ce que m'en a dit Michel Colombier, une musique à laquelle Gainsbourg était plus qu'attaché parce que c'est une musique qu'ils ont coécrite au moment où Gainsbourg était vraiment sur la fin de sa liaison avec Brigitte Bardot. Et tout son désespoir, son état intérieur, et avoir cette femme qui allait lui échapper, il l'a glissé dans cette partition vraiment incandescente, quoi, au romantisme noir. Et quand j'ai trouvé vraiment les bandes complètes de Manon, que Jean Aurel en plus, parce que Aurel n'a quasiment rien gardé de la partition de Gainsbourg et Colombier au mixage, et là, ça a permis de découvrir vraiment la partition dans toute sa pleine dimension, et notamment des sublimes déclinaisons orgue, Eddie Lewis, et cordes du thème de la chanson. Ça m'a laissé, comment dire, au bord de la panne de pacemaker, quoi. Donc voilà, donc c'était tout ce matériel qu'il fallait donc injecter dans ce nouveau coffret. Et puis il y avait plein de choses. Il y avait par exemple des bandes multipistes que Gainsbourg avait enregistrées au studio Ferber. Donc on a numérisé les 24 pistes et on les a remixées. Il s'agit notamment de la musique d'Équateur, de la musique du documentaire de William Klein, Mode en France. J'avais aussi trouvé plein de petites choses, mais qui étaient trop éparses ou trop courtes pour faire l'objet d'une édition plus complète. Par exemple, un thème qui avait été prévu pour la phase B du 45 tours de Slogan. Hop, bah voilà, c'était sa durée de 1 minute 50. Donc on l'a injecté, on l'a mis dans ce nouveau coffret. Donc voilà, on est parti là-dessus, tout a pris forme. Et puis un jour, il y a eu ce moment qui reste pour moi un moment vraiment décisif. C'est tout est plié, on part en fabrication. Et il y avait une grande partition dont je rêvais depuis des années, qui était Les Chemins de Katmandou, film d'André Kayat, écrit par René Barjavel. Tous les deux, c'est ces deux personnalités de l'ancien monde qui se mettent à faire un film sur les communautés hippies au Népal. Pourquoi pas? Et cette musique était restée une espèce de chimère, presque de Graal, puisqu'elle n'était jamais sortie en disque. Et nous, on termine ce nouveau coffret, on est fin février, début mars, et je reçois un coup de fil de Jean-Claude Vanier, qui est en vacances à Lisbonne, et qui, avec son côté un peu droupesque, me dit « Dis-moi, la musique des Chemins de Katmandou, ça t'intéresse ou pas ?» Je dis, mais Jean-Claude, on n'a pas de support, tu m'as dit que tu n'avais rien. Oui, mais alors figure-toi que la fille de mon copiste, en fait, elle s'appelle Dominique Maréchal, mon copiste Daniel Maréchal, est mort il y a 2 ans, et sa fille, il y a une semaine, a décidé de ranger toutes les affaires de son père, et au fond d'une valise, elle est tombée sur une bande. Ça t'intéresse ? Et là, je me souviens, comme ça, j'ai failli vraiment faire le malaise vagal de Sarkozy quand il courait en plein cagnard en 2009, qui s'est écroulé en pleine canicule. J'ai dit, Jean-Claude, tu plaisantes. Et donc, voilà. Et donc, pas du tout. Alors, il est venu, on a attendu qu'il rentre de Lisbonne, il est venu en studio avec la bande. Et il y a eu ce moment, mais c'est le temps retrouvé, c'est-à-dire de vous retrouver avec Jean-Claude Vanier. Qui pendant 6 ans a été le double complément, les deux autres mains du 4 mains avec Gainsbourg. On pose cette bande qui n'a pas tourné depuis 45 ans sur un Studer. Et là, on entend des bribes, des moments, des fragments de vie en studio. C'est-à-dire qu'il y avait la voix de Vanier de l'époque. Vanier s'écoute aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez le physique de Vanier en 2015 qui entend la voix du Vanier de 69 qui fait bon, les cordes, hein, très rythmique. Bon, générique début, 4e prise. Hop, et le thème commence. Mais ça a été vraiment... on était tous vachement émus et je suis ravi vraiment qu'on ait pu intégrer cette partition qui était dans la collaboration, dans la continuité de la collaboration Gainsbourg-Vanier, une sorte de chaînon manquant.
L'époustouflante musique du générique des Chemins de Katmandou, le film d'André Kayat, cette musique signée, co-signée par Serge Gainsbourg et Jean-Claude Vanier, donc inédite jusqu'à aujourd'hui en disque, en CD, et qui réapparaît donc miraculeusement donc dans le coffret Le cinéma de Serge Gainsbourg qui vient de paraître donc chez Universal et dont l'éditeur est Stéphane Lerouge, éditeur aussi de la collection Que écouter le cinéma, Stéphane Lerouge, dont on a pu entendre le témoignage. On a écouté également un extrait de la musique de Manon 70, Autostop, par, co-signé bien sûr par Serge Gainsbourg et Michel Colombier. La chanteuse Nico à ses débuts en 1963 pour une version inédite, enfin non publiée à l'époque, de Striptease, mais qui avait été déjà publié en 2001. Donc Striptease pour le film de Jacques Poitrenaud. Finalement, Nico n'a pas été retenu, mais c'est Juliette Gréco qui a chanté cette chanson pour le film de Jacques Poitrenaud. Nico partira vers d'autres rives qui seront plus warholiennes et plus Velvet Undergroundiennes, si je puis me permettre ce néologisme. Et la musique en était signée, co-signée Alain Goraguer à Serge Gainsbourg, et les paroles bien sûr Serge Gainsbourg. Et puis au début de cette séquence, un extrait de la bande originale de La Horse, Everest, comme le disait Stéphane Lerouge, de la collaboration Gainsbourg Vanier, toujours dans le coffret Le cinéma de Serge Gainsbourg. Alors Jean-Claude Vanier, on va le retrouver tout de suite, et Jean-Claude Vanier, il va être pas mal présent sur à la Radio France et sur les ondes de France Musique dans les prochains jours, puisque lundi soir, mon camarade Laurent Valero organise un concert au studio 104 à Radio France, donc lundi à 20h, un concert de Jean-Claude Vanier, chanteur, donc un concert gratuit. Donc vous pouvez bien sûr réserver des places pour ce concert, c'est ouvert, il y a de la place, donc n'hésitez pas, et ce concert sera diffusé dans l'émission Le Temps d'une Chanson de Laurent Valero, donc le samedi suivant, le samedi 16 à 18h, comme voilà l'horaire de l'émission Le Temps d'une Chanson. Et Jean-Claude Vanier, ben, vous le retrouverez également plus longuement dans Cinéma Song dans deux semaines, pour une émission qui lui sera consacrée autour de ses musiques de films, mais justement pas de Gainsbourg, puisque de Gainsbourg il va en être question tout de suite avec Jean-Claude Vanier, qui va nous parler de sa rencontre avec Serge Gainsbourg.
France Musique.
Je venais de faire un disque avec Nougaro, où j'avais fait des chansons et des arrangements, avec une formation assez particulière, enfin plusieurs même. Et Nougaro avait adoré ce que j'avais fait. Et c'était Jean-Claude Desmarty qui était son directeur artistique. Jean-Claude Desmarty, ce que je ne savais pas, s'occupait de Gainsbourg aussi. C'était tout ça, c'était Philips à l'époque. Et donc, je pense que Serge devait venir de se fâcher avec Colombier, parce qu'il se fâche avec tout le monde, en fait. Et puis, il a demandé à Desmarty de lui trouver quelqu'un. Et Desmarty avançait à moi. Et donc, j'étais à Londres, j'ai rencontré Serge. C'était le début d'une véritable amitié. C'est-à-dire, on a très peu travaillé ensemble. On a travaillé 3 ans ensemble, pas plus. Mais on est restés très amis, d'abord parce qu'on avait une grande complicité en dehors même de la musique, des choses artistiques en général, de la vie, enfin de tout. On parlait de tout sauf de musique, de toute façon. Et j'ai fait quelques chansons. J'ai fait le disque de Jen, j'ai fait Melody Nelson, et puis 3-4 musiques de films plus, peut-être, je me souviens plus. Et puis j'ai arrêté, enfin de mon propre chef, parce que on était tout le temps ensemble. Alors moi, je voulais pas faire un duo, j'avais pas. Il y a un décalage dedans, il aurait pu être mon père aussi, des trucs comme ça, quoi. Donc je voulais pas continuer ça.
Je crois qu'il y a eu plus de 3-4 musiques de films, parce que, à mon avis, une dizaine, en tout cas, dans lesquelles vous êtes crédité au minimum comme directeur musical, comme arrangeur. Comment ça se passait concrètement, le travail avec lui? Alors, notamment sur la musique de film, j'imagine que c'était pas fondamentalement différent du reste, parce que là aussi, il y a l'idée que vous avez peut-être fait un peu plus que ce pour quoi on vous a crédité, en tout cas, à l'époque.
C'est-à-dire que Serge, il avait très peur qu'on lui pique ses affaires. Il avait dit ça à Gorgain, il avait dit ça à Colombier. Il m'avait dit ça à moi, il dit, tu comprends, moi si on m'appelle, je suis obligé de travailler avec toi, mais toi si on t'appelle, t'es pas obligé de travailler avec moi. Alors ça lui foutait la trouille, disait-il. Je crois surtout qu'il était tellement avide de reconnaissance, de gloire et tout ce machin-là, qu'il voulait être seul sur le générique. Et puis, il faut dire très franchement que je suis pas très malin, parce que, comme les films étaient très mauvais en général, j'allais jamais les voir, si bien que j'ai jamais vu le générique. Je savais même pas si j'étais ou pas, puis je m'en foutais complètement. Mais on co-signait tout ce qu'on faisait, tout ce que j'ai fait avec Serge, je l'ai co-signé. On partageait les droits. Voilà comment ça se goupillait. Ben, on se mettait sur un piano, il me montrait une mélodie, je lui montrais une autre, puis on avançait comme ça. Et puis moi, j'écrivais l'orchestre, quoi. Je faisais le boulot d'écrire. De toute façon, je sais qu'avec moi, il était encore à peu près. Il arrivait quand même à sortir 2-3 mélodies, mais sa santé étant de plus en plus précaire. Quand il est arrivé à travailler avec Sabar, je crois que c'était juste après moi, Jean-Pierre me dit. Il s'amenait, il n'y avait même plus de mélodie, il n'y avait plus rien du tout. À un moment donné, il dit bon, ben, vas-y, quoi.
Thank you.
ce qui est frappant quand on revoit certains des films, même si les films sont pas forcément très bons, mais en tout cas les musiques, elles, sont très bonnes et les arrangements sont très saillants, on les entend très très bien et au fond ils n'ont pas vieilli tellement parce que ils restent quand même très, enfin je sais pas, bon, vous savez très bien comme moi qu'il y a un certain nombre de gens qui sont fascinés par ces musiques-là d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir en tout cas parmi les films qui ont été faits, bon, il y a eu Paris n'existe pas, Cannabis, Projection privée, quelques autres, vous avez des souvenirs précis de ces films, enfin d'un film en particulier où tout se mélange finalement pour vous dans cette espèce de continuum des trois ans?
Non, ça se mélange pas, mais d'abord on enregistre toujours dans le même studio et avec pratiquement le même preneur de son qui était
Jean-Claude Vanier,
qui était un mec avec qui je m'entendais très bien. Et c'est un peu moi qui décidais de ça, évidemment, l'orchestre aussi. Et voilà, je dirigeais l'orchestre. La plupart du temps, très franchement, je ne sais pas si Serge y attachait l'importance, je ne crois pas. Non. On s'en foutait un peu. Très franchement, je n'allais même pas voir les films. Je faisais la musique de film sans l'avoir jamais vu. Lui, Serge, il l'avait vu une fois, puis on faisait ça par-dessus la jambe. Nous, on faisait de la musique, terminée. Et c'était fait dans l'enthousiasme, sur un coin de table, sans aucun complexe. Aujourd'hui, on me dit, mais comment t'as fait ce son-là? Comment t'as réglé la basse? Et donc, on réglait rien du tout. Le type s'amenait avec son son, il jouait, et puis voilà, terminé, on se posait aucune question. Par exemple, je me souviens, là, dans le disque qui va sortir, qui est remis dans le commerce par Stéphane Le Rouge, il y a un truc sur, je crois que c'est sur Cannabis. On a cherché désespérément un mec qui jouait du sitar, vous savez, du sitar indien, pour faire genre couleur locale. Et je me souviens, je crois que c'était Jean-Claude Oliver, qui était un guitariste à l'époque, qui avait un sitar, mais il avait qu'une corde. Alors, il y a un morceau, on n'entend qu'une seule corde de sitar, puis c'est tout l'orchestre qui fait le reste. Quoi. C'est assez rigolo, des machins comme ça. Ou des formules rythmiques, je demande à un mec de faire du banjo, et hop, on trouve un truc, puis on improvise sur place. Et beaucoup de choses étaient improvisées. Puis, sur ces improvisations, quelquefois, je mettais des cordes, alors je m'amusais avec ça. C'était très franchement, c'était fait sans esprit de faire ce que c'est devenu, par exemple, mythique, je sais pas quoi, culte, truc-muche. Moi, j'ai fait ça avec enthousiasme. J'adore la musique, donc j'ai fait ça dans la joie, véritablement. Avec Serge, on s'entendait bien, on allait dîner ensemble après, etc. C'était super sympa, mais à aucun moment on s'est pris la tête, quoi.
deuxième extrait de la bande originale inédite jusqu'à ce jour des Chemins de Katmandou, le film d'André Cayatte. Ça s'appelle Transpartie des Hachichiens. Et c'est signé Serge Gainsbourg et Jean-Claude Vanier. Bien sûr, Jean-Claude Vanier, dont on a entendu la voix pour deux interventions. On le retrouvera donc dans Cinéma Song dans deux semaines pour parler de ses œuvres à part entière, si je puis dire, sans Gainsbourg, Vanier sans Gainsbourg. Et donc, je vous rappelle également le concert de Jean-Claude Vanier lundi à 20h au Studio 104 à la Maison de la Radio. Et avant, on a écouté un extrait de la bande originale de Slogan, le film de Pierre Grimblat, où se sont rencontrés d'ailleurs, sur le tournage où se sont rencontrés Serge Gainsbourg et Jane Birkin, et ça s'appelait Paris-Bombay. C'est toujours extrait, bien sûr, du coffret Le cinéma de Serge Gainsbourg qui paraît, donc, qui est apparu ces jours derniers chez Universal. Alors, on va retrouver un dernier intervenant pour la dernière partie de cette émission. Il s'agit de Pierre Koralnik, réalisateur d'origine suisse qui a croisé Gainsbourg à deux reprises décisives. D'une part, pour la comédie musicale Anna, produite à l'époque pour l'ORTF en 1967 avec Anna Karina, Jean-Claude Brialy et Serge Gainsbourg. Il nous en parlera longuement. Et également, pour trois ans plus tard, pour le film Cannabis qu'il réalise pour le cinéma avec cette fois-ci Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Tout de suite, Pierre Koralnik.
Le départ, c'est évidemment, c'était Michel Arnaud, qui est une chanteuse de cabaret ou de chansons de très rive gauche, qui a lancé en fait Serge dans son cabaret de Miller Larsouille. Et elle, ils se connaissaient, et moi, elle voulait que je travaille pour elle. Et puis j'avais déjà fait un Ni Figue Ni Raisin pour elle, qui avait été tourné à Deauville, qui avait très bien marché. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire une sorte de comédie musicale avec chez Serge Gainsbourg. On s'est rencontrés. Puis voilà, puis comme il était pourchassé par sa femme à l'époque, il est venu habiter chez moi, boulevard Murat, et pendant une année, et on a travaillé à ce film, quoi.
C'est-à-dire que Michel Arnaud a dit oui tout de suite.
Oui, elle disait oui très rapidement à quelque chose qui lui plaisait. Non, c'était non. Mais c'était une productrice extraordinaire. Qui a aidé Averti et d'autres gens à faire vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Elle les a imposés à l'ORTF de l'époque.
D'où est venu l'argument de la comédie musicale, puisque j'imagine que sur la musique, c'est évidemment Gainsbourg qui s'en est chargé, mais pour l'argument.
Ben, l'argument était assez simple. Je sais pas, j'ai inventé cette histoire qui était l'histoire de gens qui se côtoient, qui ne se voient pas, etc., et qui ne trouvent pas l'amour. Et à partir de là, Serge m'a dit, moi, je veux pas... Parce que j'avais imaginé que Jean-Loup Dabadie allait m'écrire les lyrics. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Parce que Gainsbourg a dit, ou je fais les lyrics, la musique, ou je fais rien. Alors, il fallait que je décide. Et voilà, donc, il a fait les lyrics sur les thèmes que je lui donnais. On a dit, à tel moment, il y a ça et ça qui se passe... On va donner un nom à la chanson et puis regarde ce que tu peux faire. Alors, il était content, très content d'Anna Karina, parce qu'elle a une voix, une vraie voix de chanteuse. Et pour Brialy, c'était déjà plus difficile, mais on y est arrivé parce que quand on a enregistré, Serge était poussé sa voix dessous. Et Brialy était au-dessus et ça donnait des choses pas très orthodoxes, mais quand même qui ont passé. Qui ont plu aux gens.
Ça veut dire que vous n'avez jamais imaginé, par exemple, de faire doubler Brialy dans la mesure où il n'était pas du tout un chanteur?
Non, ça, c'était impossible. Moi, je n'ai jamais pensé ça. Et à la rigueur, je l'aurais fait parler, plutôt que parler en rap. D'ailleurs, ce que faisait Gainsbourg dans le film même, il a commencé, il a fait deux interventions musicales lui-même, où il chantait à peine, quoi. C'était une première forme de rap de l'époque.
Et la présence de Gainsbourg physiquement dans le film, c'était inclus d'emblée ou ça s'est venu comme ça au fur et à mesure, parce qu'il joue un rôle aussi dans le film?
Bon, il avait envie de faire quelque chose. Il était très narcissiste de toute façon. Alors l'idée qu'il allait pouvoir se montrer à l'image, ça lui plaisait, quoi. Et il a trouvé exactement ce qu'il fallait pour placer son Bossuet ou son Stendhal. Une chose qu'il n'aurait jamais pu faire ailleurs, ça c'est sûr.
Qu'est-ce autre chose que la vie des sens, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. De l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Je m'en fous, ta gueule, laisse-moi finir. L'âme flottant toujours incertaine entre l'ardeur qui se renouvelle, l'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui se ralentit. L'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui se ralentit. Ce mouvement perpétuel de l'appétit au dégoût, de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. On ne laisse pas de se divertir par l'image d'une liberté errante. Tu sais de qui c'est, hein? Bossuet.
Bravo, tu as raison funèbre.
Ah non, parce que moi je suis assez cynique pour en faire ma ligne de conduite.
Oh, t'es dégueulasse, dégueulasse, mon vieux.
Ouais, ouais, un peu amnésique sur les bords, hein. Voilà où ça mène. Un poison violent, c'est ça l'amour. Un truc à pas dépasser la dose, c'est comme en bagnole. Au compteur 180, à la borne 190, effusion 200. Voilà, je te donne un conseil, tu tiens ta peau, laisse tomber.
Je cours après une ombre, tu vois, et c'est même pas la mienne. Encore elle serait sur les colonnes Maurice. Je pourrais l'attendre à l'entrée des artistes. Mais elle est insaisissable. Où veux-tu que je la trouve?
Oh, mon petit Armstrong Jones, il fallait pas faire de la photographie.
Oh, toi t'es écœurant. On peut pas discuter avec toi. Tu prends tout à la blague.
Oh, erreur. Erreur, justement. Un de ces quatre, tu verras. Tu me rendras raison. Écoute. Quand tu en auras marre, j'ai une petite pour toi, complètement demeurée, mais tellement esthétique.
Oh, ne fatigue pas, va. Allez, salut.
Quel souvenir vous gardez d'Anna Karina, qui donc, comme vous le disiez, n'était pas vraiment une chanteuse professionnelle au sens strict et qui venait quand même de faire la série de films avec Godard, donc elle était marquée quand même, j'imagine, par cette aura-là. Est-ce que ça, voilà, comment vous remémorez cette période?
Anna Karina venait directement de chez Godard, qu'elle venait de quitter, je crois, oui. Et bon, elle avait bien sûr un nain, un peu une auréole. Mais enfin, pareil.
Pierre Koralnik.
À un moment donné, tout ça se dissipe. Et il ne reste plus que l'actrice, et avec un potentiel de voix formidable. Parce qu'elle avait commencé déjà dans le cabaret très jeune, au Danemark. Et enfin, elle savait chanter. Hein. Et Gainsbourg avait vraiment été très étonné par cette voix. Parce qu'il, lui, il n'aime pas les voix. Il n'aimait pas les voix. Il aimait les filles, les voix des filles ou des garçons qui ne savaient pas chanter, en fait, presque. Et là, il se trouvait devant quelqu'un qui pouvait exploser, qui pouvait vraiment chanter. Moi, c'était une comédienne merveilleuse, et c'était vraiment un grand bonheur. Pour Jean-Claude, c'est vraiment un acteur habile, agile, amusant, très amusant, mais sa voix était une voix de rocaille, quoi. Il fallait tout faire avec lui. Mais c'est bon, on y est arrivé. C'est pas. Oui, il n'y avait pas de vraie voix. Il y avait, oui, Marianne Faithfull a une très jolie voix. Mais quand elle est arrivée, tout le monde était émerveillé par cette jeune fille si parfaite, si blanche, si rose. C'était vrai, une petite Anglaise très belle qui arrivait, qui chantait avec une voix très légère et très belle. Et on se disait, ça c'est magnifique. Alors qu'elle était déjà depuis un bon moment en Angleterre dans le cercle des Rolling Stones et qu'on en avait vu d'autres. Mais pour nous, elle arrivait comme une, comme une plume. Elle avait une jolie voix, oui.
Un jour comme un autre, où je reste seule avec moi, pour Anna, Anna, restes-tu seule avec toi?
Gainsbourg n'était pas encore une star. Est-ce que ça a constitué, enfin, est-ce que ça a été une étape importante, vous pensez, pour lui dans son développement personnel à cette époque-là où il change beaucoup, parce que c'est une époque où il commence à faire chanter beaucoup de chanteuses. Enfin, il avait déjà commencé, mais bon, voilà, il y a un Gainsbourg pop qui apparaît vraiment de manière plus claire à ce moment-là. Et comment vous voyez ça dans sa trajectoire à lui?
Je crois que lui, ça lui a fait quelque chose de travailler avec moi dans ce contexte. C'est-à-dire faire autre chose que ce qu'il avait l'habitude de faire. Maintenant, c'était quand même déjà un artiste réputé. Il les faisait chanter, après avoir fait France Gall, il y en a d'autres qui sont venus et il était quand même très connu. Mais ça n'a pas eu, disons, sur le plan strictement artistique, je ne pense pas que ça ait eu une... Il s'est pas développé autrement que ce qu'il avait fait, qu'il a toujours fait, qu'il aimait pas tellement faire, qui était de faire des chansons sur commande presque pour des filles et des garçons. Il en
est. Cela dit, après, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu une influence là-dessus, mais quand après il a fait lui-même des disques, comme on dit, des albums concept, comme Melody Nelson ou Le Mal à Tête de Chou, finalement Anna, c'est un peu son premier moment où il raconte une histoire à travers, avec la musique.
Oui, peut-être que ça, c'est ça la répercussion, si on veut. Mais Serge était plus intéressé par les lyrics. C'est là où il se trouvait vraiment dans une phase totalement créatrice. Autrement, c'était une ligne de conduite musicale, parfois extraordinaire et originale. Et puis, l'orchestration était faite par quelqu'un d'autre, qu'il vérifiait, qu'il regardait, mais il savait pas faire. Il savait pas écrire les notes, il savait pas faire une orchestration.
C'était Michel Colombier, en l'occurrence, l'orchestrateur.
C'était Michel Colombier, un artiste assez exigeant sur le plan de l'orchestration, qui a fait un travail pré-hollywoodien, si on veut. Après, il est parti pour l'Amérique. C'était quand même très, très, très achevé, ce qu'il faisait.
Thank you.
effectivement, Jane Birkin est dans la vie de Serge Gainsbourg au moment où vous envisagez, j'imagine, Cannabis, qui vient après Slogan, film de Pierre Grimblat, où je crois qu'ils se sont rencontrés. D'où est venue cette idée de ce film Cannabis, qui est lui aussi avec Serge Gainsbourg en rôle important, et Jane Birkin?
Ben, c'était une idée de producteur qui avait vu Anna et qui voyait, savait que bon, qu'il y avait cette jeune fille qui était maintenant dans la vie de Gainsbourg, qui était Jane Birkin, et il voulait faire un vrai film avec ces deux personnages. Voilà, c'est donc une idée de producteur. On a adapté un roman dont je ne sais plus quel est le nom et qui était très mauvais, et nous on a fait un scénario qui était peut-être pas extraordinaire. Non, il était pas mal quand même pour l'époque, je dirais, avec François de Burguet, et puis on a tourné. Tout ça a été plutôt facile, parce que les producteurs étaient tous partants. Et
Pierre Koralnik.
Mais c'était, malheureusement, ça débouchait sur une sorte d'euro-pudding, c'est-à-dire qu'il fallait prendre un acteur allemand, un acteur italien, et l'ensemble donnait quelque chose d'un peu à part, quoi.
Comment était Gainsbourg comme acteur? Parce que là, il a un rôle plus important que dans Anna, et il est vraiment acteur dans le film, aux côtés donc de Jane Birkin. Comment ça se passait avec lui sur ce plan?
Maintenant, on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que c'était un très mauvais acteur. Et que tous les films qu'il a fait, il était tout à fait épouvantable. Bon, il en ressortait néanmoins sa personnalité. Alors moi, je n'avais pas de choix. C'est comme ça qu'on s'est entendu encore là-dessus. C'est qu'il allait être comme il est. Et je ne voulais pas qu'il change quoi que ce soit et qu'il nous sorte ses dialogues comme s'il les avait inventés et sans tenir compte de l'exactitude des choses. Mais il ne fallait pas qu'il interprète. Parce que quand il a joué dans les films Peplum, etc., c'était incroyable, tout à fait. Alors qu'il avait un sens du phrasé magistral, que quand il chante et qu'il parle dans un micro, c'était toujours magnifique quand il y avait de la musique, hein. Autrement c'était des bubles qui sortaient de sa bouche, c'est tout. Mais voilà, alors il devait jouer ça, et Jane était parfaite, quoi, pour pas dire autrement.
We'll be right back. par rapport à Anna, donc on parlait du côté pop d'Anna, qui est donc un petit peu plus tôt. Là, avec Cannabis, on bascule plutôt dans une dimension un peu psychédélique. Le titre même du film peut l'induire. Et la musique est différente aussi, parce que bon, c'est Jean-Claude Vanier à ce moment-là qui commence à travailler avec Gainsbourg. Et il y a quelque chose de plus... presque de plus hallucinatoire d'une certaine façon dans cette musique. Comment ça s'est passé aussi, sa façon dont la musique s'insère dans le film?
Très sincèrement, je me souviens pas bien de la musique, je me souviens simplement du pré-générique où Birkin fait la 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 la, et c'est tout. Mais le reste, c'était de la musique de film, c'est-à-dire qu'on a des séquences et on veut mettre de la musique là. Contrairement à tout ce que j'ai fait par ailleurs, je n'arrivais pas vraiment à lui faire donner un sens, si on veut, comme on a de la musique de film, souvent, enfin, où la musique vous donne une indication parallèle à ce qui se passe et qui donne une sorte de film. On était dans des plages, qui est une chose différente et que pour moi j'aime pas trop, mais là créer des ambiances, c'est exactement ce qu'il fallait pour le film. Mais il savait pas, et personne ne l'a aidé en dehors, peut-être Colombier qui comprenait un peu ce qu'on voulait faire. C'est, il n'arrivait pas à faire des continuités musicales. C'était des idées avec un fond et une atmosphère très particulière, mais quand il fallait aller à la prochaine séquence, là, il n'y avait plus personne. C'était un travail d'orchestration, disons, principalement.
Ça veut dire que vous pensez qu'il n'était pas vraiment entièrement fait pour de la musique de film, alors que finalement, il en a quand même fait pas mal.
Il l'aurait pu le faire sous la direction de quiconque qu'il voulait vraiment faire. Il l'aurait fait. Mais lui, c'était un créateur d'atmosphère musicale et pas constructeur, si on veut.
Voilà, c'en est fini pour cette semaine, en tout cas pour Gainsbourg. Vous entendez en ce moment même un extrait de la bande originale de Cannabis, le film de Pierre Koralnik, un extrait qui s'appelle Danger, qui figure dans le coffret Le cinéma de Serge Gainsbourg. Pierre Koralnik, on l'a entendu donc tout au long de cette dernière séquence. Pierre Koralnik, le réalisateur donc de Cannabis et de la comédie musicale Anna. On a écouté également un autre extrait de la bande originale de Cannabis qui s'appelle Avant de mourir. Et puis trois extraits de la comédie musicale Anna, un instrumental co-signé bien sûr par Michel Colombier et Serge Gainsbourg. J'ai peut-être oublié de redire que Jean-Claude Vanier était co-compositeur de Cannabis avec Serge Gainsbourg. Et puis deux chansons, Un jour comme un autre par Anna Karina, sur une musique bien sûr de Colombier Gainsbourg et des paroles de Serge Gainsbourg. Et puis un duo Gainsbourg-Brialy pour Un poison, violence et salamour, avec une fameuse citation de Bossuet. Tout ça extrait donc de Anna, et ça n'est pas dans le coffret de Siva Serge Gainsbourg, mais dans la bande originale du film Anna, qu'on peut retrouver de manière autonome. Voilà, alors la semaine prochaine on en reparlera, mais maintenant c'est l'heure de la chronique de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique?
Musique, je viens de voir de bar. Oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors la musique très étrange que l'on entend en ce moment, Thierry, eh bien, qui
peut évoquer plein de choses, hein, entre le moteur de moto, la taille haie, l'alarme, eh bien c'est celle de la bande originale du film Hyena, donc Hyène en français, réalisé par le réalisateur britannique Gerard Johnson, et qui est sorti sur les écrans hier. Alors ce n'est pas un documentaire alimanier, hein, comme on pourrait le penser avec ce titre. Alors le film raconte l'histoire de flics donc en Angleterre qui, pour exercer leur métier, un en particulier, et avoir des résultats, se trouve en fait à la limite de la légalité. Et il y a dans ce film, il faut le préciser, des scènes vraiment très violentes mais très efficaces. Et alors donc la bande originale de Hyena est vraiment excellente, très surprenante, hein, comme justement on peut l'entendre. On la doit au leader du groupe The, Matt Johnson. Donc Johnson est connu pour ses talents de chanteur et de compositeur au sein de son groupe, et c'est tout simplement le grand frère de Gerard, Johnson. Ils ont 11 ans d'écart, hein, les deux frères. Ils ont déjà réalisé des films ensemble, enfin avec Johnson en tant que compositeur, enfin Matt en tant que compositeur, pardon. Et donc pour cette bande originale de Hyena, Matt Johnson évolue dans un genre électro, mais aussi techno house. Certains morceaux ont une couleur un peu aussi Europe centrale parfois. Alors ça paraît éclectique comme ça, tous ces morceaux, mais cela ne l'est pas tant que cela, justement parce que la bande originale est toujours parcourue soit par des rythmes très répétitifs, soit alors planants. Et c'est ça qui crée justement l'homogénéité. Alors visuellement, de l'autre côté, il y a beaucoup de plans de caméra à l'épaule qui s'enchaînent avec des plans, cette fois-ci au ralenti, donc accompagnés eux toujours d'une musique. Et en fait, ça crée des ruptures de rythme et de mouvement que l'on retrouve justement dans l'éclectisme de cette bande originale. Donc c'est vraiment pour moi une très belle réussite. Alors tant pour la qualité de la composition de Matt Johnson, mais aussi parce que justement, enfin s'il y a cette qualité, c'est parce qu'il a travaillé très en amont avec son frère, et la préparation s'en ressent. Il faut dire que Matt Johnson justement aime travailler de cette façon-là. Il évoque justement le Hollywood en particulier, et le fait que les compositeurs sont souvent sont les derniers maillons de la chaîne. Il aime avoir la possibilité de voir une création artistique forte, et ça s'entend justement dans ce travail-là. Alors là, je pense que les auditeurs doivent être un petit peu surpris, Thierry. Moi-même, dans le film, j'ai pas pensé qu'il pouvait s'agir d'un extrait de musique. Pourtant, c'en est bien. On le retrouve sur la BO. Ces deux morceaux là qu'on vient d'entendre. Le second, ça s'appelle Killers and Concubines. Et justement, c'est cet extrait de musique. On est quasiment à la limite entre le bruit et la musique. C'est un peu de la musique concrète. Bon, il faut dire en fait que Gerard Johnson, donc le réalisateur, est un fan de Carpenter, de Tangerine Dream, des bandes originales de Tarkovsky. Il était venu voir son frère
Matt. Ce que
Matt,
vous aimez en fait.
Mais même beaucoup de.
Moi j'aime bien aussi. Hein,
beaucoup d'auditeurs de cinéma sans oui, j'en suis persuadé.
J'imagine.
Et donc, Matt Johnson a réfléchi sur ce que son frère lui avait soumis. Et en fait, le résultat, c'est globalement une bande originale donc de climat, d'ambiance. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si Giorgio Moroder avait composé une bande originale pour un film de David Lynch. Les derniers en particulier. Et des fois, d'ailleurs, ça fait penser un peu.
C'est une collaboration qui aura peut-être lieu un jour, on sait jamais. Hein.
Et donc, ça fait penser un petit peu à la musique d'Inland Empire. Mais pour la fin, pour la fin de ce film et donc de la BO, on entend une influence qui est tout à fait différente que celle plutôt à mon avis du groupe R.
Thank you.
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Le titre donc de cette musique composée par Matt Johnson.
C'est bien vrai.
Pour ce film donc Hyena, donc qui est sorti en salle hier. Et donc malheureusement, Thierry, la bande originale n'est pas sortie en France. Elle est disponible en physique en Grande-Bretagne évidemment, mais on peut se la procurer quand même sur le site tout simplement hein, de Matt Johnson en allant sur à l'adresse www.theze.com. Et puis bien sûr, on peut aussi la trouver sur des plateformes de téléchargement légales.
Merci beaucoup Charles-Pierre et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Alors ce soir, j'étais en compagnie de Jean-Paul Lafavergès, Ben Kaczmarek, Dorothée Goll, Alexandre Billard était à la technique et c'est l'indispensable Bruno Rioux-Maillard qui réalisait cette émission. Je le remercie particulièrement pour ce soir. Et la semaine prochaine, donc, on retrouvera Serge Gainsbourg et on retrouvera surtout certains de ses complices comme Jean-Pierre Sabar, comme William Klein, comme Michel Mercier, Angélique, également chanté, et Bruno Podalides, le cinéaste, grand amateur de Serge Gainsbourg sur tous les plans et notamment sur le plan musical et cinématographique. Je vous laisse en compagnie d'Anne Montaron. Bonsoir Anne.
Très bonne nuit Thierry Jousse et à la semaine prochaine.